motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débat, pronostics et débrief de combat, interviews, mais aussi retour nostalgique sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour une nouvelle émission, voilà, un mardi de plus, pas un mardi de trop. J'ai mes collègues qui sont ici présents pour passer la prochaine heure ensemble. Hugo, présent à la technique, comment vas-tu Hugo ?
Oui, bah ça va, super content d'être de retour en studio.
Ah oui, c'est vrai, Hugo qui était au téléphone la semaine passée. Petite gestion de la régie aujourd'hui en l'absence de Nora.
Oui, qui nous manque énormément, évidemment.
Évidemment, on a hâte qu'elle revienne. Lounis, toujours fidèle au poste.
Toujours, moi ça ne bouge pas, je suis toujours là.
Exactement, c'est le meuble de l'émission.
Je suis le tiroir.
Faut savoir que Lounis dort dans le studio, histoire
d'être là. Je voilà. Ne quitte pas les lieux.
Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, le principe il est simple, c'est trois amis qui vont discuter de MMA pendant la prochaine heure. Donc voilà, on
moi
va passer...
Moi j'irais plutôt collègue, plutôt ouais, qu'amis, collègue, enfin, ouais, on peut-être. on se connaît pas de ouf tous les trois. Bon.
Partenaire d'entraînement.
Sparring pattern.
Exactement.
Voilà, on se tape dessus.
Voilà, donc on va passer la prochaine heure ensemble à discuter de MMA, installez-vous confortablement. Le programme pour cette émission du soir... on va revenir donc sur l'UFC 301 qui a eu lieu samedi dernier au Brésil. Donc voilà, un événement qui a été riche en émotions. Ensuite, on va faire une petite, je vais faire une petite chronique mythique, voilà que j'ai concoctée. Je l'avais annoncée la semaine passée.
Elle est très secrète.
Exactement. J'en ai
très peu parlé. On n'a toujours pas le sujet ?
Non, du tout.
On ne sait absolument rien dessus.
Sachez juste que. On va changer complètement de registre et de style.
Ouais. Il va nous parler style, foot.
Je fais une chronique sur la rivalité Messi-Ronaldo.
Avec grand plaisir.
Les deux seuls joueurs de foot que je connais.
C'est vrai. Donc voilà, petite chronique mythique. Et enfin, on terminera par un petit débat sur le cutting. Voilà, ça nous permettra un petit peu de rebondir sur ce qui s'est passé, notamment du côté du français William Gomis ce week-end. Je n'en dis pas plus, on y reviendra plus tard. Sans plus attendre, eh ben on va commencer avec le débrief des actualités et l'UFC 301.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight?
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
L'UFC numéro T301 qui a donc eu lieu au Brésil, main event Alexandre Pantora contre Steve Herzeg. On avait eu également le retour de la légende José Aldo. Bref, beaucoup de choses à aborder. Et avant de commencer, pour faire un petit peu un préambule de notre débrief, les gars, je vais vous demander votre événement en un mot. Si quelqu'un l'a ici, Hugo, Lounis, vas-y Lounis, fais-nous rêver.
J'aurais choisi retour, retour en force, mais c'est pas vraiment à propos pour le main event. Je pensais surtout justement, on va en parler, mais à la performance de José Aldo. Donc oui, en un mot, je dirais peut-être, oui, c'est ça, retour.
Retour, ok, très bien. Notamment pour l'événement, c'était vraiment l'événement principal,
oui,
le retour de José Aldo. Hein. Hugo, ton petit mot pour cet événement ?
Moi, je dirais royal.
Royal.
Parce que José Aldo. Je sais pas, quand t'as dit retour, je sais pas si t'as pensé à retour du roi.
Ah, bah, j'aurais pu, c'est une référence à Tolkien. Ah. J'aurais pu.
Mais oui, ouais, royal, parce que vraiment, José Aldo qui revient alors qu'il a quoi, 39 ans
37.
Il est âgé,
37.
Ouais.
37.
Mais 37, comme ça, on dirait que c'est pas très impressionnant parce qu'il y a des combattants qui ont performé à très haut niveau comme ça, à cet âge-là. Mais en fait, José Aldo a commencé sa carrière extrêmement jeune.
Wow.
Et c'est très impressionnant parce qu'il a une longévité dans le sport qui est exceptionnelle. Il a défoncé un top 13, je crois.
Top 14, ouais, un truc comme ça.
Un top 14, alors qu'il, en niveau carrière, il est très très tard dans sa carrière. C'est exceptionnel.
Voilà, donc on va revenir un petit peu plus en détail sur le combat tout à l'heure. Mon mot pour cet événement, ça va surtout correspondre aux trois derniers combats, ça va être immortel. Immortel, je pense à Anthony Smith et Soji Aldo qui sont qui sont deux combattants plutôt âgés qui ont réussi à remporter leur victoire. Les deux, en plus, d'une manière un petit peu différente. Donc, Anthony Smith en calant une soumission très rapidement.
Ouais.
Et José Aldo.
Ce qu'on n'attendait pas trop.
Exactement.
Non, Anthony Smith.
Et José Aldo en maîtrisant son adversaire sur trois rounds. Et Immortel aussi pour Pantora, qui a encore réussi à aller chercher la victoire alors qu'il avait un adversaire plus que coriace.
Ouais.
Et surtout qu'on a un peu l'impression qu'il est plus avant, en fait. Même s'il est mis en danger, on a l'impression qu'il trouve toujours le moyen de gagner son combat.
Il est très résilient.
Donc voilà, alors on va commencer justement, on va parler donc des deux combats principaux plus en détail. On commence par José Aldo, quand même, oui. le gros...
principal.
Exactement.
C'était un peu le main event du peuple, quoi.
Exactement, donc comme on l'a dit, victoire de José Aldo qui fait son retour après un an et demi de retraite, on va dire.
Mmh.
Et retour donc face à son public, José Aldo qui est brésilien, l'UFC 300 était au Brésil. Victoire par décision sur trois rounds, plus que méritée. Pour José Aldo,
ah bah, il lui a cassé la bouche, hein, on peut le
non,
dire.
Non, c'est ça. Bah, il a, alors peut-être que, comment dire, avec un peu plus de facilité, mais le combat rappelait énormément l'affrontement entre donc José Aldo et Pedro Munhoz, où là, effectivement, on avait également Aldo qui affrontait un top 14 pour un petit peu se mesurer face à une jeune génération alors qu'il était déjà âgé. Hein. Le combat avait eu lieu... il y a 2 ans, je crois, contre Pedro Munhoz. Et c'était voilà, à peu près la même issue. Un José Aldo Royal qui domine complètement les échanges en striking. C'est probablement... on l'a déjà dit lors de la dernière émission, mais Aldo, c'est probablement, en termes purement d'approche, en termes de boxe thaïlandaise, c'est probablement l'un des meilleurs à avoir concouru à l'UFC. Donc, il a fait du José Aldo en grande forme. Et c'était, on ne peut que qu'être heureux pour lui. Enfin, oui, on l'a déjà dit, mais surtout compte tenu de son âge.
Hugo, un petit avis sur cette performance du Brésilien ?
En fait, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. C'est ce que j'ai dit juste avant l'événement. J'ai dit, si José Aldo revient et qu'il défonce son adversaire, on dira « ouais, bah, c'était prévisible ». Et s'il revient et qu'il se fait défoncer, on dira « ouais, bah, c'était prévisible ». En fait, ce qui est rigolo, c'est que...
Il y avait un peu une inconnue sur le niveau qu'il allait avoir après sa retraite.
S'il revenait avec le niveau qu'il avait d'avant sa retraite, bon bah, c'était tranquille. Et au final, c'était assez tranquille. Il a été mis en danger quelques fois, il a été sonné un petit peu, mais une victoire très en maîtrise, quoi.
Alors du coup, ouais, il y a ce côté retraite de José Aldo. C'est vrai qu'en termes de retraite, il a été absent qu'un an et demi. On a connu plus long comme retraite. Par exemple, oui. Michael Chandler qui va affronter McGregor en juin, ça fera deux ans qu'il n'aura pas combattu alors qu'il n'est pas à la retraite.
Pas une retraite. Il attendait juste son salaire.
C'est pas non plus triste d'ailleurs.
C'est pas non plus une grosse absence que José Aldo a eu de 3 ans comme John Jones ou d'autres. Hein. Mais malgré tout, surtout pour un combattant comme José Aldo, pour qui le côté timing, sentir un petit peu son style et tout, c'est très important.
Son côté perceptif, si on peut dire.
Exactement. Et bah, être éloigné de la cage un an et demi, c'est vrai que ça aurait pu se ressentir un petit peu dans son style. Et il se trouve que pas du tout, il est revenu affûté, en forme physiquement. On ne l'a pas senti fatigué à la fin du combat. Donc
mais surtout, c'est un exploit. Je crois qu'on ne se rend pas compte. J'ai vu ça l'autre jour. Au moment où José Aldo est arrivé à l'UFC, si je me rappelle bien, Sean Strickland était... Sean Strickland, n'importe quoi. Sean O'Malley était au collège. voilà, donc c'est...
Sean O'Malley, donc l'actuel champion de la catégorie dans laquelle est José Aldo.
Voilà, et il y avait d'autres infos là-dessus, mais je me suis surtout rappelé de celle-là parce que ça m'a fait...
Oui, du coup.
Ouais. Il a une longévité folle. Enfin, oui.
Mais il a commencé à 17 ou 18 ans, José Aldo, exactement.
Je sais pas, mais il a commencé très jeune.
Ouais.
Ça fait 20 ans.
Il a 20 ans de carrière. C'est difficile de faire plus long en termes de longévité de carrière. Ouais. Et il y a des gens qui... Il y a des combattants et des combattantes qui font des carrières plus courtes et dont les effets de leur carrière se fait ressentir plus tôt. Alors que là, il a eu vraiment une des plus longues carrières du game.
Sa performance et sa longévité, elle est dingue. Mais je crois aussi qu'on l'avait évoqué à la dernière émission, mais je vais quand même le redire. José Aldo a quand même, avant de se faire mettre KO en 13 secondes par Conor McGregor, c'était 10 ans d'invincibilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est d'être invaincu pendant 10 ans
en
MMA.
En étant actif.
C'est-à-dire vraiment... Bref, c'est quasiment inhumain, mais il était à une époque parvenu à le faire.
Autre chose, c'est qu'il y a énormément de combattants à la place de José Aldo après ce qu'il a pris face à McGregor et toute la guerre psychologique qu'il y a eu avec. Il y a énormément de combattants qui s'en seraient pas relevés, ah oui, et qui auraient fait une Tony Ferguson.
Ça a été difficile perdu pour lui en plus. Hein.
Il a changé. Il a changé de catégorie peu de temps après ce combat-là.
C'était surtout après le combat contre Max Holloway qui a changé de catégorie.
Il a fait comprendre qu'il avait plus qu'il fallait, en tout cas pour les poids plumes.
Exactement. Ouais. Voilà. Un petit mot quand même sur son adversaire du soir, Jonathan Martinez, qui était un petit peu.
On va pas dire sur une série de victoires de 6 victoires.
Voilà,
je crois.
C'est ça. On va pas dire qu'il était envoyé à l'abattoir, mais je pense qu'ils ont choisi un peu cet adversaire plus dans son style qui correspondrait bien à José Aldo. Voilà, c'est un striker également.
C'est ça. Les deux, je pense que l'UFC avait également booké ce combat parce que Martinez avait, je crois, 2 KO liés à des kicks, notamment. Et on sait que José Aldo, sa grande spécialité, c'est justement les coups de pied. Donc, je pense que l'UFC avait booké les deux combattants pour voir ce qui allait se passer.
Je sais pas si c'est ce que t'insinuais, Aurel, mais moi, je trouve que c'était pas un combat facile pour lui.
Non,
parce qu'il aurait pu prendre, je pense que l'UFC aurait pu lui proposer, ou peut-être lui a proposé, on ne saura jamais, mais peut-être je me dis que l'UFC a pu lui proposer des combattants non classés. Ça aurait été plus sûr et plus sécurisé de dire tu vas combattre quelqu'un qui n'est pas dans le classement, dans le top 15, et puis comme ça, tu es quasiment sûr de gagner.
Je parle vraiment du choix dans le style du combattant. Je pense que c'est un style qui correspond bien à José Aldo. Et c'est vrai qu'on dit que José Aldo a dominé son adversaire. Il a été meilleur, c'est le cas, mais Jonathan Martinez a longtemps été d'être ridicule. Il a pris un round.
Oui.
Donc c'était quand même prometteur pour la suite. Ouais. La suite justement pour José Aldo, on peut en parler rapidement. Je m'attendais à ce qu'il prenne sa retraite. Je me suis dit, allez, il a 37 ans, une dernière victoire face à son public. S'il part, personne ne lui en voudra. Il se trouve qu'il a pas vraiment l'air d'avoir envie de se retirer.
Est-ce qu'on est surpris?
C'est dommage.
Voilà. Ouais, exactement.
C'est très dommage.
Alors, on va pas rentrer dans les détails et tout, mais globalement, c'est pas les adversaires qui manquent dans la catégorie.
Je vais annoncer un truc. Il va se prendre un KO par Song Yeo-dong, et là, ce sera sa vraie fin de carrière.
Ah, et tu penses?
Ah, j'annonce.
Ok. On garde. Donc,
je sais pas quand. Je peux le voir. Mais s'il continue, c'est ce qui va se passer.
Je peux le voir, mais ne soyons pas pessimistes.
Évidemment.
Qu'est-ce qu'il a en conférence de presse après l'événement? Il a dit j'aimerais bien avoir un petit title shot contre Sean O'Malley.
Ah, va falloir attendre un peu parce qu'il y a la queue dans les poids.
Mais justement, il a dit j'aimerais bien sauter la queue et avoir un title shot.
Ah oui, d'accord. Il est confiant.
Oui, il est confiant.
On peut pas lui retirer. Voilà, donc José Aldo qui fait son retour sur une belle victoire, exactement, face à son public. Un autre combattant qui a gagné face à son public, c'était pour le titre des poids mouche, la plus petite catégorie masculine de l'UFC. Alexandre Pantora, mon nouveau petit chouchou, on va dire, qui s'est défait de son adversaire Steve Herzeg au terme d'un combat en 5 rounds à la décision. Combat très équilibré, très incertain.
Très disputé.
Et comme tous les combats des poids plumes, très passionnants.
Ouais. Non, énormément d'activité de la part des deux combattants. Herzeg qui nous a
bien surpris.
Nous a beaucoup surpris parce qu'on le voyait tous ne pas être à même de garder un rythme satisfaisant face à Pantora qui lui est habitué justement à des combats en 5 rounds et qui a vraiment Pantora une stratégie d'usure vis-à-vis de ses adversaires. Il les épuise et il essaie comme ça de les finir quand il peut. Mais là, non, c'était très très disputé. Herzeg a vraiment surpris le monde entier. Malheureusement, la décision des juges a été en faveur de Pantora et pas donc envers Herzeg, mais au moins on va dire qu'Herzeg a gagné énormément de fans ce soir et il devrait avoir sa revanche très prochainement parce que ça se bouscule pas vraiment chez les poids mouches.
Donc Hugo Lounis l'a vite fait expliquer. Donc malheureusement pour Herzeg, la décision est tombée du côté de Pantora. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de scandaleux, parce que il y a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux, certains qui pensaient que la victoire devait revenir à Steve Herzeg. Est-ce que pour toi c'est scandaleux ce choix des juges?
Absolument pas. Ça m'aurait pas scandalisé ça m'aurait fait bizarre que ça aille du côté d'Herzeg, parce que moi je voyais Pantora gagnant, pas de beaucoup, mais je le voyais gagnant, et au final les juges m'ont donné raison, donc voilà. Non, je pense que c'est vraiment ça aurait pu aller dans les deux sens et ça aurait pas été scandaleux, mais quand même petite préférence pour Pantora dans ce combat.
Moi, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans le combat plus précisément, notamment dans le cinquième round, parce que je pense que ça a vraiment été un tournant. Steve Herzeg était au-dessus de son adversaire Pantora, donc dans le cinquième round, sur les phases de striking. Il arrivait vraiment à le mettre en difficulté et notamment à beaucoup contrer les entrées de Pentora. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment, il s'est dit « bah tiens, je vais essayer d'amener une, de faire une amenée au sol », sachant que le sol, ce n'est pas du tout le domaine de prédilection d'Erceg et c'est vraiment là où Pentora est confortable. Ouais, je sais, mais c'est pas son style,
c'est
tu
pas
vois. Surtout, surtout contre un mec contre Pentora qui, lui, vraiment, c'est,
oui, qui
c'est
très
son truc.
Axé sur le grappling, ouais.
Donc,
il avait comme tu dis, il avait le dessus.
Il avait le dessus et c'est vrai qu'il a fait cette amenée au sol.
C'est peut-être ce qui lui a fait perdre le combat.
C'est ce qui lui a fait perdre le combat pour moi, parce qu'après, il s'est fait dominer toute la fin du round, une fois au sol, et du coup, il a pas pu scorer. Pentora, lui, a pu. Et je pense que.
Erreur de stratégie, ouais.
Je pense qu'il a dû miser sur la fatigue de Pentora. Ne jamais miser sur la fatigue de Pantoro. Jamais. Ce n'est pas un handicap pour lui.
Et du coup, ouais, voilà. Je pense que c'est ce qui lui a fait perdre le combat dans le cinquième round. Il avait pris le quatrième sûr et certain. Le deuxième, très probablement. Et voilà, tout se joint un petit peu sur le dernier, malheureusement. Peut-être petit manque de lucidité, petit manque d'expérience que Pantoro n'a pas eu. Et en fait, c'est ce que je dis régulièrement. En fait, le très très haut niveau, les combats pour le titre et même pour le top 15. Ça se joue à des détails.
Oui.
Et en fait, les champions, c'est ceux qui arrivent à avoir les meilleures décisions et vraiment ne laisser aucune chance, aucune chance au hasard. Ouais. Et là, Pentora, une nouvelle fois, c'est pas la première fois qu'il gagne un combat.
Il craque.
Voilà, exactement.
Bah,
on pense à Moreno. Même Royval l'avait mis en difficulté, même si c'était moins prononcé. Ouais. Et ben encore une fois, il arrive à s'en sortir parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus résilient, parce qu'il est plus complet.
Ce qui l'a amené, d'ailleurs, cette défense de titre l'a amené au rang de... Il est devenu le deuxième sur le classement des GOAT dans la catégorie flyweight. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la catégorie flyweight est tellement saturée et il y a tellement d'excellents combattants et les champions tournent tellement tout le temps qu'en fait, avec cette défense de titre, Alexandre Pentora est devenu il est deuxième à égalité en nombre de défenses de titre en flyweight.
Ouais.
Ouais. Donc il a deux défenses.
Deux défenses de titre, tout à fait. Donc, contre Royval et contre du coup maintenant Erceg.
Et la personne qui détient le record, qui est premier, c'est Demetrius Johnson, qui a 19 défenses en tout cas.
Non, 11, on avait regardé.
Ah ouais.
Oui, bah 19 c'est plus que John Jones.
19 ça fait beaucoup.
19 c'est plus que John Jones.
Ouais. Non, je défense de ceinture, de titre, ce qui, bon, n'a aucun sens.
Mais bon, Demetrius Johnson est hors catégorie, on n'en parle pas parce que...
Peut-être que Pentora va égaliser le record. Non.
C'est pas impossible.
En vrai,
c'est
possible.
Pas impossible, hein.
On n'est pas à l'abri d'un nouveau Volkanovski.
Mais il va falloir qu'il soit actif.
Volkanovski, il a pas 11 défenses de ceinture.
Il a combien 6
Oh, au moins 4. 4 ou 5, je crois.
6, hein. 6 ou 7. Hein.
Tu penses?
Ah ouais.
Attends, je vérifierai.
Il y a deux fois Holloway, il y a Ortega, il y a Corian Zombie, il y a Rodriguez, donc déjà au moins 5.
C'est vrai.
Donc
ça
voilà.
Ça fait peut-être 5, je pense. On est plus proche des 5 que
ouais,
les 6.
5 ou 6, exactement.
Moi, je pense que c'est
bref.
6, je sais pas pourquoi.
Vas-y, Hugo, premier sur l'info. Voilà, nouvelle victoire de Pentora. Petit retour sur d'autres combats, voilà, très rapidement. Donc, on l'a dit, Anthony Smith, le vétéran, qui cale une soumission dès le round 1.
Grande surprise, parce qu'il affrontait vraiment un gros prospect, là, pour le coup, des lourds légers.
Donc, Vitor Petrino, il s'en est voulu aussi. Il a fait une erreur bête, en fait. Il a plongé dans les bras d'Anthony Smith et s'est pris une guillotine. Il s'en voulait un peu. Je pense que s'il y a un rematch, ça se passerait peut-être différemment. Mais bon, comme on dit avec Desi, on met pas rien en bouteille. Autre résultat, Michel Pereira, un des combattants les plus spectaculaires.
Petit coup illégal quand même.
Peut-être pas illégal, mais c'était limite. Bref, il gagne son combat en moins d'une minute. Paul Craig qui se fait défaire malheureusement par KO au round 2 contre Caio Borralho. Et voilà, donc on va pas revenir sur tous les combats, mais c'était une carte intéressante.
Relativement intéressante.
Petit bémol, je trouve, quand même, sur le public brésilien qui a pas été à la hauteur
de
l'équipe.
Il faut dire les termes. Ils sont très surcotés.
Que la salle était vide quasiment
mais
tout le long de la carte.
Hugo, ça voudrait dire que, genre, ils ont déjà, comment dire, un.
Ah, ben, ils ont une réputation. Je crois qu'à l'UFC, je crois que les. comment dire, les cadres à l'UFC, Jordan White, ont déjà dit ouais, c'est une super foule, la foule brésilienne.
En fait, c'est un peu tout rien. C'est quand ils ont un combattant sur qui ils peuvent.
Quand il y a José Aldo qui combat, ouais, ils, voilà. En fait, gueulent, sinon non.
C'est ça, c'est quand ils sont dedans, quand ils sont à fond dans le truc, oui, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'engouement et de ferveur. Mais sinon, là, pendant tout le long de l'événement, la salle était à moitié vide, elle était juste remplie pour José Aldo, qui était le co-main event. Et pour le main event, les gens sont repartis, ils sont même pas restés pour Alexandre Pantora, qui est quand même champion à l'UFC et qui est un des leurs.
Donc, que des MMX, voilà, je le dis.
Donc voilà, très très déçu de la part du public, mais on va pas s'étaler là-dessus.
Par rapport à la foule, juste petite remarque vite fait, et après je te laisse. Je vois sur ton visage que ça.
Oh non, vas-y, t'inquiète.
Par rapport à la foule française, je veux pas.
Française ou même anglaise.
Hein. Ouais, voilà. Dès le début, la salle elle est remplie dès le début pour les combattants français ou anglais du coup. Il y a énormément de bruit. Non, c'est la foule brésilienne qui a été l'une des premières à accueillir un UFC. Ils sont nuls, ils sont sur côté de ouf.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire globalement sur cette UFC 301 au Brésil. On va se faire une première petite pause musicale. Hugo, qu'est-ce qu'on écoute ?
C'est moi qui ai choisi la musique. Et là, aujourd'hui, il fait beau. Moi, en venant à la radio, je me disais, je vais prendre une musique qui respire un peu le soleil, qui fait chaud, qui fait danser. Voilà. Donc, on s'écoute. Il est insupportable. Oh, le cynique. Du coup, on va s'écouter September de Earth, Wind and Fire.
Eh bien, on s'écoute ça et on revient juste après. À tout de suite.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà fait une première partie de l'émission où on a débriefé l'UFC 301 qui a eu lieu au Brésil samedi dernier. Et là, on va passer sur une petite chronique mythique que j'ai concoctée. Voilà, donc je l'ai laissée un petit peu secrète, même pour Hugo et Lounis qui ne savent pas trop de quoi je vais parler.
On ne sait pas à quoi s'en tenir.
Exactement. Alors du coup, comme vous le savez, au Bagarre Club, on parle de MMA. Et bien souvent, que ce soit dans nos débats ou nos chroniques mythiques, on parle de l'UFC, des superstars, des combats, des rivalités. Seulement, le MMA, comme son nom l'indique, avant d'être un spectacle, c'est surtout un art martial. Les gars, vous pensez à quoi quand vous entendez un petit peu le terme art martial? C'est
Bruce
quoi les...
Lee.
Ah, quoi?
Bruce Lee.
Ah Bruce ouais. Lee.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas faux.
Ou alors, moi, je pense aussi à Miyamoto Musashi aussi. Qui a écrit le traité des synchros, allez lire ça.
Miyamoto Musashi. Ouais, c'est vrai. Ben, je vais en parler rapidement en plus. Dans ma rapidement. Voilà. Ah, donc, comme quoi.
Ah, ça va plaire à Lounis.
Ah ouais. Ah, cette chronique, elle va vous plaire, les gars. Je vous connais.
Grand fan d'arts martiaux traditionnels.
Exactement. Et alors, moi, personnellement, quand j'entends le terme art martial, pareil, j'ai une vision un petit peu plus noble du truc, le côté plus spirituel. Ouais, je m'imagine vraiment dans un dojo au milieu d'une forêt, dans mon kimono, assis en tailleur. Donc c'est vraiment cette image-là que j'ai très, très rapidement. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, éloignons-nous des caméras de l'UFC le temps d'un instant. Mesdames, messieurs, échauffez-vous correctement. Enfilez votre kimono fraîchement sorti du lave-linge et prenez le premier vol pour la Corée, car aujourd'hui, on va parler de l'homme qui voulait devenir invincible, Masutatsu Oyama. Le jingle, Hugo, s'il te plaît.
La chronique mythique dans le Bagarre Club.
Grimpons dans la DeLorean et revenons plus de 100 ans en arrière. C'est le 27 juillet 1923 que naît Masutatsu Oyama sous le nom de Choi Yeong-hui, dans un petit village de Corée du Sud. Issu d'une famille d'aristocrates, le jeune Choi Yeong passe les premières années de sa vie dans le cocon familial. À l'âge de 6 ans, il est envoyé à la ferme de sa sœur, dans le sud de la Chine, afin d'y apprendre la rigueur, la discipline et les valeurs du travail. À l'âge de 9 ans, il apprend le Nippon Kempo, un art martial ancien japonais plutôt complet. C'est à ce moment que débute une longue histoire d'amour entre notre personnage et les arts martiaux. Cette histoire va se poursuivre une fois de retour en Corée, où il y apprendra ensuite le Kempo coréen. Sauf que Choi Yeong est un garçon turbulent, et son séjour à la ferme ne l'a pas calmé. Pour y remédier, son père l'envoie au Japon, à l'école militaire de Yamanashi, en 1938, alors qu'il est âgé de seulement 15 ans. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Choi Yeong va poursuivre ses études sans prendre part au combat. Il va terminer son cursus militaire pour ensuite s'inscrire à l'université. Sauf que la passion de Choi Yeong, ce n'est pas les bancs de la fac, mais bien les arts martiaux. Il va donc se mettre à pratiquer le karaté-do. Donc c'est une discipline qui implique tout un mode de vie, au-delà de la pratique du simple karaté. Pour marquer la rupture avec son ancien mode de vie, notre personnage va changer de nom. Choi Yeong-hui devient alors Masutatsu Oyama. À partir de cet instant, il va dédier sa vie aux arts martiaux, explorant plein d'autres disciplines, que ce soit le judo ou d'autres formes de karaté. Le jeune homme connaît alors une ascension fulgurante, car c'est à seulement 20 ans qu'il remporte le All Japan Tournament, un tournoi réunissant tous les styles de combat, donc que ce soit boxe, judo, karaté. Oyama parvient à se défaire de ses adversaires grâce à son style unique. En effet, le jeune prodige est parvenu à compiler plusieurs arts martiaux dans sa façon de combattre, ce qui le rend extrêmement versatile une fois sur le tatami. Après sa victoire, Masutatsu Oyama est promis une grande carrière. Et malgré son jeune âge, de nombreux autres combattants souhaitent apprendre son karaté et devenir un de ses élèves. Seulement, un événement va venir bouleverser l'ascension du jeune combattant. Toujours en 1947, alors que le Japon est occupé par les Américains suite à la Seconde Guerre mondiale, Oyama, qui est actuellement en train de passer, enfin qui au moment des faits se passe une soirée tranquillement dans un bar, il aperçoit un Américain draguer lourdement et devenir de plus en plus insistant avec une jeune danseuse. Il décide alors d'intervenir dans le calme afin de venir en aide à la jeune femme. Sauf que le ton monte rapidement et les deux hommes commencent à en venir aux mains. Le combat est à sens unique. Oyama finit par infliger un violent coup sur la tête de l'Américain, qui va là malheureusement décéder immédiatement. Cet événement, Oyama va le vivre comme un traumatisme et regrettera terriblement son geste. Il va aller jusqu'à travailler dans une ferme afin de verser une rente à la famille de la victime, délaissant ainsi les arts martiaux pendant de nombreux mois. Donc resituons un petit peu les choses. On a un jeune combattant au style unique en pleine ascension qui doit délaisser sa raison de vivre afin de travailler dans une ferme, le tout avec la culpabilité d'avoir tué un homme. On peut comprendre qu'à ce moment-là, le moral de notre héros n'est pas au mieux. Seulement, quelques années après, alors qu'il est toujours très affecté par cet événement, Masutatsu Oyama va faire une rencontre qui lui sera salvatrice. So Nei Chu, un spécialiste du Goju-Ryu, un style de karaté basé sur le travail sur soi, la préparation physique et la respiration. So Nei Chu va faire comprendre à Oyama l'importance de la spiritualité dans les arts martiaux. La méditation et le contrôle de soi sont indissociables des sports de combat. Sur le conseil de So Nei Chu, Masutatsu va donc prendre une décision radicale. Les gars, petite devinette. À votre avis, petit A, il va s'isoler 3 ans en pleine montagne. Petit B, s'entraîner dans le froid, frapper dans des arbres et méditer sous des cascades d'eau glacée. Petit C, étudier les écrits des plus grands esprits japonais. Petit B, écouter l'intégralité des podcasts du Bagarre Club afin de prendre note des analyses de Lunis et donc de développer sa stratégie.
Je dirais B et C.
Moi, je dirais tout sauf la dernière.
C'est une bonne réponse, Nico.
C'était une question piège, je l'ai vu dans tes petits yeux. Là.
Exactement. Dommage. Accompagné de 2 de ses élèves, Nion et Yashiro, Maître Oyama va s'exiler pendant 3 ans dans les monts Kiyosumi, au Japon. Leur seul contact est Monsieur Kayama, qui gère le ravitaillement. Comme vous pouvez vous en douter, le petit groupe n'est pas venu pour faire des randonnées nature, pique-niquer dans l'herbe et faire de la tyrolienne. Au programme, entraînement intensif et méditation sous une cascade d'eau glacée. Les 3 hommes ne s'accordent aucun répit. L'objectif est clair, repousser les limites que leur corps leur impose et perfectionner le karaté mis au point par Maître Oyama. Un style qui reprend les principes du karaté Shotokan, auquel il y ajoute le judo pour les projections et le Goju-Ryu pour le travail de poing et de respiration. Le soir, à la lumière des bougies, c'est la vie de Miyamoto Musashi qui est racontée, l'homme le plus célèbre du Japon. Donc pour vous parler un petit peu de Miyamoto Musashi, Lunis, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu l'homme le plus célèbre du Japon qui a fait peinture, philosophie, voilà, qui a fait des arts martiaux.
Disons que c'est une
figure emblématique.
C'est un peu le Léonard de Vinci japonais. Honnêtement, c'est une figure assez proche.
Ouais, sauf que c'est vraiment un cran au-dessus parce qu'il a fait aussi des arts martiaux.
Exactement. Il est considéré comme c'est un escrimeur hors pair.
C'est ça, il est considéré comme le plus grand escrimeur du Japon.
Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il a écrit le traité des Cinq-Roues que j'ai actuellement dans la main. C'est une dinguerie le hasard. J'avais prêté à Lunis qui vient de me rendre.
Les choses sont bien faites. Voilà. Donc voilà, donc ils vont étudier un petit peu ses écrits, tout ça dans le but de s'élever intellectuellement. Malheureusement, l'intensité est telle qu'un premier élève craque complètement au bout de 6 mois et est contraint d'abandonner. 12 mois plus tard, c'est au tour du second élève de laisser seul Oyama dans les montagnes. Après 3 ans, dont 1 an et demi seul, Oyama fait son retour à la civilisation et n'a qu'une seule idée en tête. Tester et montrer son style au monde entier. Il va donc partir en tournée aux États-Unis afin de se mesurer à tous les styles de combat. C'est bien simple, il veut affronter tout le monde. Boxeur, jujitsuka, karatéka, sumo, kickboxer, tout le monde y passe. Et les résultats sont bluffants. Il va gagner chacun de ses combats et pareil à son retour en Asie. Pour vous donner une idée un petit peu du personnage, combattre des humains ne lui suffit plus. Il va donc se mettre à affronter des taureaux. Voilà. Donc il va affronter des taureaux. Faut savoir que c'est une pratique qui va par la suite lui être interdite car elle a été jugée un petit peu irrespectueuse des animaux et on peut plutôt le comprendre. Voilà, c'est pas forcément utile d'affronter des taureaux. Donc tout ça pour dire, les années d'entraînement dans la solitude et la rudesse de la montagne ont porté leurs fruits. Et comme vous le savez, en plus de vouloir montrer qu'il est l'homme le plus fort du monde, Masutatsu Oyama ressent en lui un besoin de transmettre son art. Il va donc fonder son premier dojo au Japon, dans le but d'enseigner son style de combat. L'engagement des élèves se doit d'être total et n'est pas fait pour tout le monde. Le taux d'abandon y est extrêmement élevé, dû à l'intensité des entraînements. C'est en 1964 que son école devient officielle et son siège mondial ouvre ses portes. Maître Oyama donne alors à son style le nom de Karaté Kyokushinkai, dit « l'école de l'ultime vérité ». Respect et humilité, conditions physiques irréprochables et dépassement de soi sont les éléments qui donnent au Kyokushinkai la réputation de karaté le plus dur du monde. Masutatsu Oyama va même aller jusqu'à créer une épreuve pour tester les plus endurcis de ses élèves. La particularité de celle-ci, c'est que tout le monde peut la passer quand il le souhaite, que ce soit après un jour d'entraînement ou 15 ans. Hugo, enfile ton kimono et va faire cette épreuve.
Alors, en quoi consiste-t-elle ?
Je vais vous dire ça. Cette épreuve, c'est le Iyaku Nin Kumite, dit l'épreuve des 100 combats. Le principe est simple, effectuer 100 combats de 2 minutes à la suite. L'issue se fait uniquement au chaos ou au point. Autre particularité, le Kyokushinkai est un art martial qui a été élaboré afin d'être dans la recherche constante du chaos. Durant cette épreuve, il est alors interdit de combattre à l'économie. Les juges qui observent le combat peuvent invalider le défi s'ils voient que le combattant se repose de trop. Dans ce cas-là, pas d'avertissement, c'est la disqualification immédiate. À la création de cette épreuve, beaucoup la jugeaient impossible. Alors pour faire taire les critiques, Masutatsu Oyama va la réaliser lui-même. Non, c'est pas vrai, j'ai menti. Il va pas faire cette épreuve une fois pour la montrer que c'est possible. Non. Il va la faire 3 fois en 3 jours. Je sais pas
mais,
si vous...
Mais du coup, ça veut dire qu'il avait 300 personnes.
Justement. Voilà.
Ça veut dire qu'il a affronté... trouvé 300 personnes.
Exactement. Donc c'est 600 minutes, 10 heures de combat intensif, tout ça en 3 jours. Donc nous, on est crevés au bout d'une heure de séance, parfois même après juste l'échauffement. Et lui, il va faire ça pendant 10 heures en 3 jours. Donc là, on est quand même sur un autre niveau. Et Oyama voulait même enchaîner sur un quatrième, mais il n'a pas pu le réaliser car il n'y avait pas assez d'adversaires à disposition. Voilà,
oh,
donc un petit peu voilà, pour toutes les particularités de l'école qu'il a créée. Petit à petit, le Kyokushinkai va connaître un immense succès et aujourd'hui l'un des karatés les plus pratiqués dans le monde entier. Si vous doutez un petit peu de l'impact qu'a cette discipline dans le monde des sports de combat aujourd'hui, sachez que le karaté Kyokushinkai et l'école dont est issu nul autre que Georges Saint-Pierre, le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Voilà, rien que ça. Masutatsu Oyama va décéder en 1994 à 70 ans. Il laisse derrière lui un héritage immense dans le monde des arts martiaux. Ce jeune coréen turbulent est devenu, à force de travail et de persévérance, le créateur du karaté le plus dur du monde, le fondateur du Kyokushinkai, le père de l'école de l'ultime vérité. Voilà pour ma chronique.
Incroyable.
Merci beaucoup pour cette chronique mythique.
Est-ce que vous connaissiez un petit peu cette histoire?
Alors, pas du tout.
Je connaissais
le nom, je me disais ça me dit quelque chose. Et ouais. En fait, j'ai fait mes recherches là vite fait pendant que tu parlais. Et en fait, je sais pourquoi ça me disait quelque chose. C'est parce que c'est un personnage qui est présent dans... le Baki. Manga Baki.
Oui. Ah, j'ai fait le rapprochement pendant l'émission.
Je suis désolé, je suis un weeb.
Non, mais aucun souci.
Voilà, je ne connaissais pas du tout ce personnage. C'est vrai que sa vie, elle est quand même très très romanesque.
Le truc, c'est que je ne sais pas si c'était l'effet escompté, mais en tout cas, moi là maintenant, j'ai envie de partir m'entraîner. Enfin, j'ai toujours envie de partir m'entraîner dans les montagnes, mais là, à cause de toi, c'est devenu encore plus fort.
Ça, je savais, je te connais, Hugo.
Tu sais que je m'emballe vite.
Exactement. Donc voilà, ouais, c'est une histoire en fait qui m'a plu parce que c'est vraiment très, comme l'a dit Looney, c'est très romanesque. C'est vraiment l'image qu'on se fait des maîtres, des grands maîtres de karaté asiatique et japonais. Vraiment le côté spirituel et tout. Et je trouve que c'est sympa aussi de s'éloigner un petit peu de côté un peu vraiment à l'américaine de l'UFC et tout ça, pour se rendre compte que le MMA, c'est avant tout les arts martiaux, le travail sur soi.
Bah, t'as bien raison.
Donc,
c'est très bien de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier effectivement avec les paillettes, les caméras, les projecteurs et tout ça, mais tout part quand même d'un travail très approfondi sur soi-même, soit sur sa physicalité et sur son mental. Donc oui, c'est bien de l'avoir rappelé.
Exactement. Donc voilà, Masutatsu. Il faut savoir que c'est un peu difficile d'avoir les dates parce qu'il y a plusieurs choses qui se contredisent un petit peu, notamment dans la chronologie. Il y a eu beaucoup de films et de livres qui ont été faits sur sa vie. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu sur cette histoire. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à la suite. Voilà, dernière petite pause musicale. On s'écoute quoi, Hugo ?
Alors, on va s'écouter Green Hill Zone. Donc, je vais expliquer rapidement.
Mais c'est Sonic, ça. C'est le niveau 1 dans Sonic.
Exactement, exactement. Donc, c'est Green Hill Zone, c'est le niveau 1 dans Sonic. Et c'est une reprise, en fait, de...
Trap.
Non, ça va pas. C'est un petit créateur ou une petite créatrice, je ne sais pas qui a fait ça, qui s'appelle 8-Bit Instrumental. Et voilà, c'est une reprise de la musique du niveau 1 de Sonic qui est très très tonique normalement, et là en fait elle est beaucoup plus chill. Donc voilà, je vous laisse apprécier.
Et ben on s'écoute ça et on revient juste après pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On va entamer la troisième et dernière partie de notre émission. Donc on a déjà vu l'UFC 301, voilà le débrief un petit peu plus en détail des combats qui ont eu lieu. J'ai eu ma petite chronique mythique donc sur Masutatsu Oyama, donc je vous invite à vous renseigner sur ce personnage haut en couleur. Et on va revenir un petit peu sur quelque chose de plus terre à terre, sur l'UFC qui a eu lieu donc samedi dernier, pardon. Et on va parler donc d'un événement qui a un petit peu fait débat, qui a fait réagir. C'est le Français William Gomis, qui devait combattre lors de l'UFC 301, qui a eu un petit souci, très très gros souci au niveau du cutting. Donc le cutting, c'est perdre un maximum de poids et d'eau afin de faire le poids tout juste au moment de la pesée pour regagner ensuite un maximum de poids et être le plus lourd possible une fois dans la cage. Donc c'est une pratique qui est, comme vous pouvez vous en douter, perdre de l'eau volontairement, c'est pas sans danger pour le corps.
Bah, c'est se déshydrater au maximum.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est pas recommandé.
Et il se trouve que William Gomis est arrivé au moment de la pesée complètement affaibli, vraiment très très mal, 1 kg en dessous de la limite qu'il devait atteindre. Donc d'habitude, les combattants, ils sont vraiment à la limite.
Non, mais je comprends pas ce qui s'est passé.
Là, vraiment, d'ailleurs, 1 kg en dessous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son corps n'a pas accepté cette déshydratation. Pardon. Et du coup, dès qu'il essayait de se réhydrater un petit peu, son corps rejetait complètement l'eau qu'il essayait de...
Je crois qu'il a été pris de vomissement.
Il a fait des malaises, tout ça. Bref. On ne va pas revenir en détail sur ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais ça nous ramène un petit peu au sujet du cutting. Et la question est simple, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que le cutting doit être empêché ? Est-ce qu'il y a des solutions pour que les combattants se mettent un petit peu moins en danger avant un combat.
Je vais laisser Hugo répondre peut-être en premier temps.
Bah, en fait, je trouve que c'est un... Enfin, j'allais dire, c'est un sujet épineux. Dans le meilleur des mondes, on dirait... Enfin, dans un monde parfait, on dirait bah non, mais chacun combat au poids où il est. Sauf qu'en fait...
Il y a la réalité sportive qui les rattrape. S'ils veulent gagner, il faut qu'ils fassent comme ça.
Oui, mais le truc, c'est que si on faisait la pesée le jour même, le jour du combat...
Alors, genre, du coup, ouais, ce serait une des solutions pour éviter le cutting. C'est que si on fait la pesée le jour même du combat et pas la veille, les combattants n'auraient pas le temps de se réhydrater, de regagner du poids, donc ils ne prendraient pas le risque d'être très affaiblis à quelques heures du combat.
Même pas quelques heures, hein, vraiment...
Quelques minutes.
Ouais, c'est ça. Je pense que un quart d'heure avant de monter dans la cage, Et quitte à faire, on fait une pesée juste avant de monter dans la cage, et on garde quand même les pesées cérémonielles un jour avant l'événement.
Pour
ça.
Les caméras, pour la presse, tout ça. Voilà. Bref.
Mais après, le truc, c'est que je sais pas, je m'y connais pas assez pour dire quel impact ça aurait. Parce que je pense que si c'était aussi facile de le faire, ça aurait déjà été fait parce que ça présente des gros soucis en termes de santé pour les combattants, quoi. Donc je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait déjà.
Lounis, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait être un petit peu les arguments contre une pesée beaucoup plus tardive?
Déjà, ça a l'air complètement un peu idiot dit comme ça, mais ça perturbe complètement la logistique de l'UFC. En tout cas, des grosses organisations comme ça qui aiment bien avoir une semaine justement de promotion avant le combat. Et on sait que la pesée tient un gros rôle là-dessus. Donc la faire juste avant le combat, c'est toute une logistique qu'il faut repenser. Que ce soit pour la venue des journalistes, pour les photos, pour la publication de... Enfin, tout l'ensemble en fait, promotionnel de l'événement est assez perturbé par ça.
Oui, mais si on fait comme j'ai dit et qu'on garde les pesées cérémonielles et tout, et en fait on rajoute mais juste, alors, on alors glisse juste une pesée juste avant...
Quelle est l'utilité de la pesée cérémonielle en fait?
Puisque de toute façon ils vont devoir être au poids juste avant le combat. Donc autant qu'ils soient au poids... Enfin, ils seront au poids la veille.
Oui, c'est ça, mais tu n'auras pas de cutting ou
donc,
quoi.
Voilà.
Oui. Argument en défaveur, écoute. En fait, pour moi, le problème, et bon, c'est peut-être un peu trop radical de ma part, mais le problème, il n'est même pas là. Il est que je pense que c'est une mauvaise. Alors, ça a l'air alléchant pour beaucoup de combattants, mais c'est une mauvaise stratégie que de. Comment dire? De cutter énormément pour pouvoir faire le poids dans une catégorie de poids à laquelle ils n'appartiennent pas initialement. Je prends le cas de, les images ont été publiées, hein, mais à l'époque où il était encore actif, mais de Khabib Nurmagomedov, donc dans la vie de tous les jours pèse entre 85 et 90 kilos et cutter pour faire à peu près 70 kilos dans la cage. Et il y a des images qui ont tourné où il est famélique sur le point de s'évanouir deux jours avant le début du combat.
Charles Oliveira,
il y a une image qui est vraiment flippante d'ailleurs, si vous pouvez la trouver. Mais
McGregor, il nous a fait ça aussi une fois.
C'est assez sinistre d'en arriver là. Mais en fait, pourquoi les athlètes font ça? Parce qu'ils veulent arriver beaucoup plus imposant et avoir une masse musculaire et juste un poids beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus imposant pour leur adversaire le jour du combat.
À la base, c'était pour avoir un avantage, mais en fait, maintenant que tout le monde le fait,
si de ton côté tu le fais, il y en a plus, mais si tu le fais pas, t'es en désavantage.
Ouais.
Les combattants, ils sont forcés de le faire parce que tout le monde le fait.
Donc, le truc, c'est que c'est limite. En fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai déjà entendu un coach, je sais plus qui, mais j'ai déjà entendu un coach comme ça qui disait nous, on fait vraiment un cutting très léger parce que, en fait, comme ça, je me demande si c'est pas Benoît Saint-Denis.
Peut-être, ouais.
Je me demande si c'est pas Benoît Saint-Denis qui fait un cutting très léger pour arriver en pleine possession de ses moyens dans l'octogone.
Il disait que c'était difficile, sauf erreur Saint-Denis.
C'était difficile lors de son dernier combat, parce qu'il avait eu ses problèmes d'infection, de staphylocoque, tout ça.
Mais je crois que, je me demande, ce serait à vérifier, on vérifiera et peut-être qu'on en reparlera. Mais oui, en effet, faire un cutting très léger, ça a des avantages parce que, en fait, c'est même pas que ça a des avantages, c'est que ça a moins de désavantages. Pour certains combattants, ça a moins de désavantages que faire un cutting, parce que le cutting, j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait un risque de concussion, comment on dit, concussion, non, de la tête.
De dommages
cérébraux, plus, enfin, une risque de KO plus élevé, quoi.
Oui, peut-être.
Et donc, oui, t'arrives plus lourd. En fait, ça s'équivaut un petit peu parce que si vous êtes à poids égal, bah, et que le mec il a pas cuté et que toi t'as cuté, en fait toi tu vas avoir plus de Si vous êtes à poids égal dans l'octogone, si t'as cuté, t'as un risque de te prendre un KO.
Oui, puis même c'est physiquement c'est très demandant, une perte d'hydratation, une perte d'eau comme ça, c'est.
Mais c'est vrai que c'est un peu et encore une fois, faut faire plus de recherches là-dessus parce que je pense qu'il doit y avoir une bonne raison. En tout cas, une raison. Pour ne pas interdire le cutting.
Est-ce que
c'est un peu c'est quoi le mot déraisonnable, des un peu déloyal, amoral. C'est un peu amoral de la part de l'UFC d'autoriser le cutting parce qu'en fait tous les combattants sont obligés de le faire du coup.
Je pense qu'un jour ils vont avoir un décès et là ça fera changer les choses.
C'est pas impossible.
Ouais. Je pense vraiment un jour il y en a un qui va y passer. Je sais pas qui ce sera mais il y en a un qui va y passer un jour et ça va faire scandale. Et la plupart des organes de MMA vont devoir poser des règles strictes.
Ça me paraît peu probable à l'UFC parce que les médecins sont vraiment. Dans les reportages et les behind the scenes, on se rend compte qu'ils sont vraiment.
Est vite arrivé. Hein.
Est-ce qu'une des autres solutions, du coup, au lieu de faire la pesée le jour même, ce serait pas d'avoir une pesée quotidienne du mec une semaine avant le combat, tous les jours, pas forcément sous les caméras et tout, on garde la dernière pesée pour les caméras.
Non, mais là on pourrait pas avoir le truc un peu drôle de Alex Pereira qui arrive à 90 kilos pour la pesée et qui en fait en fait 110 dans le cage.
Ouais, mais voilà, tu vois, c'est le même problème que Khabib, tu vois. Oui, quand tu parles de Khabib, tu dis que c'est pas très loyal, quand tu parles de Pereira, tu dis que c'est marrant.
Non, mais là je rigole, parce que effectivement, c'est pas loyal, mais c'est juste marrant de voir.
Alors après, moi le problème que ça me pose d'avoir une semaine où il y a une pesée quotidienne, c'est qu'en fait, il y a certains combattants, imagine qu'ils ont été malades pendant un peu plus tôt pendant la préparation. Ils peuvent être au poids le jour même. Par contre, ils vont galérer à être au poids une semaine avant. Donc, tu vois, ça peut être problématique. Je pense et puis je comprends pas trop l'idée de faire une semaine. S'ils sont au poids le jour même, ils sont au poids même, tu vois.
Non, mais dans le sens pour vraiment interdire le cutting pour voir que les mecs, en fait, tout le long de la semaine avant, ils sont toujours à un poids constant qui est leur poids naturel. Et qu'ils n'ont pas une perte, puis un regain après, tu vois. Ça permet d'avoir un truc vraiment plus continu sur une semaine entière.
De toute façon, ils ne peuvent pas faire une déshydratation sur...
C'est sur un ou deux jours max, quoi.
En fait, le truc, c'est que si tu mets juste avant... Je vais défendre mon idée. Je pense que si tu mets la pesée juste avant... Enfin, une pesée juste avant le combat, les mecs sont obligés d'arriver en pleine possession de leurs moyens dans la cage. Et du coup, ils sont obligés d'arriver parfaitement hydratés, parfaitement nourris et en pleine forme généralement. Donc il n'y a plus de danger pour leur santé, tu vois.
C'est vrai. Moi, il y a un autre petit bémol, là, c'est vraiment d'un point de vue purement organisationnel. C'est que si jamais il y en a un qui veut vraiment, dans le même sens, qui veut être le plus lourd possible, vraiment à la limite, mais qui gère un peu mal, qui a un peu trop mangé à 4 heures peut-être, et qui du coup est 3 grammes plus lourd... qu'est-ce qu'on fait ? Le combat, on l'annule à 15 minutes, on n'a pas le temps de trouver un autre adversaire, on n'a pas le temps de redistribuer un peu tout ça, on n'a pas le temps de renégocier avec l'autre adversaire.
Je pense que c'est le principal argument. T'as raison. Oui. C'est vrai que c'est assez complexe. Faut faire encore plus attention.
C'est ça.
Donc,
dans tous les cas, en fait, c'est là où on en parle, mais il n'y a pas vraiment de solution, globalement.
C'est ça, il y en a un qui va faire un arrêt cardiaque un jour, j'en sais rien, mais ça va arriver. Et là, il y aura pas des sanctions, mais des vraies mesures strictes qui seront prises vis-à-vis du cutting. Parce que les images ont tourné, mais c'est vraiment c'est flippant de voir des athlètes dans des états comme ça, juste pour pouvoir performer le jour J, en fait.
Pour avoir un léger avantage.
C'est ça.
C'est même pas pour avoir un avantage, c'est pour ne pas avoir de désavantage.
Ouais. C'est ça.
Donc voilà. Bref, dans tous les cas, c'est un sujet, on pourrait en débattre, des heures et des heures, parce que y a énormément de débats là-dessus, sur les réseaux, dans les autres émissions. Enfin, voilà, tout simplement un sujet très intéressant. C'est la fin de notre petite émission.
Absolument. Hein, on a fait le tour.
Exactement. C'était une bonne émission, je suis content. On a passé un bon moment. J'espère que vous avez également passé un bon moment chez vous. On se retrouve donc semaine prochaine, même jour, même heure. Voilà, fidèle au poste toujours.
Ça bouge pourquoi pas. T'as l'air, tu as l'air dubitatif.
Ah oh non du tout.
On sera là la semaine prochaine.
Moi je.
On sera là
je
la semaine prochaine.
Fidèle au poste.
Non mais parce hein. Que voilà.
Mounis va retourner se coucher là.
Pourquoi?
Bah dans le sac de couchage voilà. Que je c'est vois ça. Dans le fond de la pièce là.
Tu penseras à fermer les volets et éteindre la lumière.
Ouais.
Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @lebagarreclub sur Twitter et Instagram. On se dit à la semaine prochaine.
Bah ouais.
Voilà, allez, passez une
bonne soirée. À la semaine prochaine, bonne soirée.
Bonne soirée à tous, à la prochaine.
À la prochaine.